Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas.
Oui, je reçois ce matin Véronica Loubry. Bonjour Véronica.
Bonjour Thomas.
Bienvenue, star de la télévision des années 90 qui est aujourd'hui devenue une influenceuse importante avec plus de 250 000 followers sur Instagram. Vous racontez votre histoire pour la première fois dans un livre, La vie m'a réservé bien des surprises. Un livre dans lequel vous revenez notamment sur votre décision d'arrêter la télévision. C'est pour votre fille que vous avez arrêté, c'est ça ce que vous dites ?
C'est ça, c'est ce que je dis. J'ai arrêté parce que j'étais enceinte, j'ai arrêté quand j'ai eu le 7 d'or de la meilleure animatrice et du visage préféré des Français à l'écran. Et je me suis dit, mieux vaut partir avant que, qu'on vous chasse. Mais j'ai vraiment devancé la chose, quoi. Je suis partie très longtemps en avance.
Et on sent que vous étiez aussi un petit peu écœurée par ce petit monde de la télévision. Vous ne sentiez pas vraiment à votre place ?
Je me sentais pas à ma place, j'étais un électron libre et en fait je me sentais surtout pas en phase avec avec les gens de la télévision. J'étais en dehors du système, je pense. Mmh. C'est ça qui faisait que ma place, je la sentais pas légitime. J'étais bien quand je faisais les émissions, mais dès que ça s'arrêtait, il fallait que je parte. Voilà.
Très vite dans le sud.
Exactement, c'est ça.
Et puis peut-être que vous n'avez pas trouvé aussi l'émission qui vous correspondait vraiment.
Mais vraiment, vous avez raison.
Si on vous avait proposé, par exemple, à l'époque de faire L'amour est dans le pré, comme votre copine Karine Lemarchand, peut-être que vous auriez été plus heureuse à la télévision.
Mais c'est clair, mais souvent, mais moi, quand je vois l'émission de Karine, je me dis, tiens, ça c'est une émission que j'aurais pu présenter. Après, elle s'investit vraiment en dehors aussi, Karine. Ouais. Moi, je la connais bien, elle s'investit vraiment en dehors. Alors, je sais pas en fait maintenant, je ne sais pas. Parce que moi j'ai donné mon émission célébrité à Alexandra Bronckhorst à l'époque. C'est elle qui l'a fait à ma place parce que quand Monsieur Lelay m'appelle et me dit Véronica,
sur TF1,
il faut revenir, j'ai une émission pour vous qui va être tous les jours à l'antenne. Ça va être un gros carton. Je lui dis non, je viens d'arriver à Hawaï, je peux pas. Donc il me dit mais non, mais ça c'est pas une réponse, il faut revenir. J'ai dit non, je peux pas revenir, je fais 25 heures d'avion, je ne peux pas. Donc il a donné à Alexandra, elle a fait 4 ans. Donc après, c'est des choix.
Et vous avez regretté après?
Jamais.
Ou pas?
Non, jamais. Mais moi, j'ai jamais rien regretté.
Et alors, c'est la productrice Dominique Cancien qui vous repère un jour sur une plage, hein, c'est ça?
C'est ça.
Comme ça, c'est un casting sauvage, en fait.
En fait, je vendais des maillots de bain sur la plage et je suis passée devant elle. Et elle m'a dit, je peux vous parler? Je dis oui. Elle m'a dit qui elle était, mais je savais pas qui c'était. Et elle m'a dit, j'ai fait un casting et vous n'avez absolument rien à faire ici sur cette plage à vendre des maillots. Je dis, mais moi, je suis trop bien là. Et elle m'a dit, est-ce que je peux vous faire venir à Paris pour faire un casting? Voilà. Casting sauvage.
Et ça marche. Elle vous propose de partir aux Bahamas. Alors, vous aviez pas de passeport. Et là, vous allez tourner Le Trésor de Pago Pago. C'est ça?
C'est ça. Je tourne pendant 3 mois aux Bahamas, Le Trésor de Pago Pago. Une émission qui ne verra jamais le jour.
Mais alors, c'est ça que j'ai pas compris, parce que pour moi, elle a vu le jour, cette émission. Elle a été diffusée, elle a existé. Mais alors, sans vous, c'était présenté par Sophie Lafortune et Olivier Chiabodeau.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Il s'est passé que nous, on a enregistré. C'était beaucoup sous l'eau, ce qu'on a fait. En fait, la deuxième, ce qui a été vu après Le Trésor de Pago Pago, c'était pas la même chose. Ça a été revisité. Nous, on avait tout tourné sous l'eau, avec des sirènes, c'était une grosse production. Et en fait.
On comprenait rien.
Voilà, exactement. Vraiment. C'est ça.
Ah, parce que c'était sous l'eau. Ah oui, d'accord.
C'était trop compliqué, trop complexe. C'était magnifique, mais c'était trop complexe. Ouais. Donc, ils l'ont squeezé et ils ont refait
une
après
autre
avec Olivier Chiabodeau et Sophie. Je sais pas comment.
Et Sophie Lafortune, voilà.
Excusez-moi.
Et alors après cette longue pause pour vous occuper de vos enfants, à la cinquantaine, vous êtes vraiment mise à l'influence sur Instagram. Est-ce que c'est votre fille Tilane avec ses plus de 7 millions d'abonnés qui vous a poussé à vous y mettre?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout. Alors j'en parle dans le livre. Moi j'ai emmené Tilane jusqu'à son premier million.
Ouais.
Après je l'ai laissée. Voilà, elle avait 18 ans. Je lui ai dit, voilà, tu te débrouilles. Ma maman va faire maintenant. J'ai fait quelque chose que personne n'a fait. J'ai étudié Instagram pendant 8-9 mois et j'ai fait plein de tableaux en me disant, qu'est-ce qui fonctionnerait pour les femmes de 48 ans, à peu près.
Vous vivez aujourd'hui de ce métier d'influenceuse?
Ah oui.
C'est devenu un vrai, pas un business, mais enfin, vous êtes une femme entrepreneur, quoi.
Je vis de ce métier depuis 5-6 ans maintenant. Dès le premier jour.
Grâce aux collaborations, aux
créations. Grâce aux co-créations d'abord, parce qu'en fait, je voulais absolument, au début, je voulais co-créer. C'est-à-dire que toutes les marques avec lesquelles j'avais un partenariat, je voulais pas parler d'une marque sans avoir, moi, voilà, l'avoir essayé tester, ou ouais. testé ou le porter. Donc j'ai commencé avec les jeans en leur disant voilà, je veux bien parler des jeans, mais je veux créer mes jeans.
Et puis ça vous permet de partager aussi vos malheurs, comme cet événement tragique, puisqu'il y a un an, on a diagnostiqué à votre homme un cancer du pancréas de stade 4. Il faut savoir que le cancer du pancréas, c'est très complexe. Vous racontez dans votre livre que tout est parti d'une banale prise de sang, c'est
oui.
ça ?
En fait, on a fait une prise de sang pour le cholestérol. J'ai appelé mon médecin, il m'a fait une ordonnance,
mmh.
merci. Et en fait, dessus étaient écrits les marqueurs. C'est A19-9, ACE, tous ces marqueurs. Et je l'appelle, je lui dis, mais en fait, on veut juste savoir pour le cholestérol. Et il me dit, non, c'est bien de faire les marqueurs, parce qu'il y a de plus en plus de cancers. Et je lui dis, il s'appelle Valérie, je dis, Valérie, mais bon, ok, on fait tous les deux notre prise de sang. Et le soir même, le labo m'appelle en me disant, Madame Loubry, le CA19-9 de votre compagnon, ça va pas du tout.
Donc les marqueurs tumoraux,
marqueurs
c'est ça
tumoraux ouais. du pancréas, c'était entre 0 et 30, il avait 19 000. Donc il était déjà un cancer du pancréas stade 4. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est très important. Je sais qu'il y a un vrai problème avec les marqueurs. Beaucoup de médecins ne veulent pas faire les marqueurs. Je n'arrive pas à comprendre. Je parle avec des oncologues, je parle avec des médecins. Il y a beaucoup de médecins qui me parlent sur mon Instagram.
C'est
en disant,
pourtant pas très compliqué.
C'est pas compliqué, ouais. ça coûte rien.
Ouais. Donc ça, il faut absolument le faire.
Mais évidemment, ça sauverait. Il y a des hommes de 30 ans qui ont maintenant des cancers du pancréas, il y a des femmes. Alors, prendre un cancer stade 1, c'est pas prendre un cancer stade 4, vous comprenez
bien
ce
sûr,
que je veux dire
bien sûr.
Parce que le cancer du pancréas est un cancer insidieux. Mmh. Il ne va pas faire mal, mais quand il va faire mal, c'est fini. Donc on aurait pu le sauver, c'est bien déjà, ça fait un an déjà que grâce à cette prise de sang, ben voilà, il a pu commencer la chimio tout de suite, et puis voilà, il y a beaucoup de progrès, attention, il y a aussi beaucoup de choses positives, hein, le cancer, comme disait Denis Brogniart, si chaque Français mettait 1 €, la recherche pour le cancer, c'est la recherche qui avance le plus vite, mais il y a de plus en plus de cancers. Voilà pourquoi je voulais en parler.
Et aujourd'hui, vous êtes son aidante, vous l'accompagnez dans son combat, dans ses chimiothérapies. Comment est-ce qu'il va en ce moment ?
Il va bien, il nage tous les jours. Le cancer, il faut aussi, voilà, il y a l'activité physique, il y a le mental, il y a l'aidant, l'accompagnant. Moi, je suis accompagnante maintenant. Et il va bien, il nage, il y a toujours les chimios, mais il a un vrai mental et je pense que je fais partie aussi de sa force.
Certainement. Et on espère que vraiment la guérison sera au bout de ce chemin.
Merci.
La vie m'a réservé bien des surprises. C'est le titre de votre livre, Véronica Loubry, aux éditions Le Duc. Dans un instant, on va aller faire un petit tour dans votre carrière, Véronica.
Mais avant cela arrive le journal des médias de Jean-Philippe Longo. Et ce matin, on va découvrir qui apparaîtra bientôt dans Emily in Paris.
Ah oui,
c'est une grosse surprise et on vous l'annonce dans un instant sur Europe 1. Tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média dans un instant. On aura toute une partie de la troupe de la comédie musicale Je vais t'aimer qui va nous rejoindre pour chanter les plus grands tubes de Michel Sardou dans ce studio. Ça va être un bonheur. Mais on a la chance d'être encore quelques minutes avec Véronica Loubry, ancienne animatrice télé, devenue puissante influenceuse sur Instagram. Et alors nous allons dresser votre portrait sonore, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier.
Très
vous allez l'entendre à partir de la semaine prochaine.
Je rappelle qu'on aura le vrai à partir de lundi prochain.
Le vrai sera à ma place. Hein. Alors Véronica Loubry, vous avez reconnu quand même, j'imagine, ce générique de Sacrée Soirée, parce que c'est votre première télé, votre premier direct.
C'était direct,
Sacrée Soirée.
Premier direct, première télé avec Jean-Pierre Foucault qui fait partie des gens qui n'ont jamais changé. Voilà.
C'est vrai.
Et s'il me voit, il me dira bonjour. Tous ces gens qui font pas semblant, vous savez, on en parlait tout à l'heure.
Ouais.
Et voilà, c'est un vrai beau souvenir, Sacrée Soirée.
Et pour cette première, l'invité de l'époque, c'était Michel Leeb. Mais alors, il paraît qu'il vous a pas mis très à l'aise, Michel Leeb.
C'est rigolo parce que nous étions à Bruxelles et la personne qui signait à côté de moi, c'était sa fille, Fanny Leeb.
Ah.
Et je lui dis, tu sais que ma première télé, je l'ai fait avec ton papa. Elle me fait, c'est pas vrai. Et du coup, on a commencé à parler. C'est pas qu'il m'a mis très à l'aise, c'est que c'était en direct, des millions de téléspectateurs à l'époque.
C'est énorme.
Je crois que c'était 9 millions.
Oui, oui.
Mais c'était énorme. Et quand je commence à parler, je lui dis, et il fait écoutez mon petit, si vous bégayez comme ça, il y aura pas de carrière.
Oh là là.
Et là je savais plus quoi faire. Et Jean-Pierre m'a aidé, il a rebondi, c'est vrai que c'est un souvenir.
Et vos parents, ils vous ont parlé que de votre coiffure d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Mes parents sont tellement des gens simples. Quand j'ai appelé de la loge en disant j'étais bien maman, j'étais bien, elle m'a dit t'étais pas très bien coiffée.
Mais en général, c'est ça les parents.
C'est ça les parents et c'est ça qui remet les pieds sur terre.
Exactement. Allez, extrait suivant. Ah, vous souvenez de ça ou pas? Ouais. Jean-Philippe Longo qui connaît toute la télé.
Ouais, la chanson, premier single, je crois.
Jean-Philippe, il connaît tout. Ah
ouais. Premier single en 97.
Premier et seul.
Seul, hein, oui, voilà. Premier et dernier.
Premier et dernier, c'est très important. Hein. Il faut remettre les choses, l'église au milieu du village. Mais je me suis éclatée.
Ouais.
Moi, ce que je disais, tout ce que j'ai fait, je ne regrette pas du tout. Et c'est dans l'air, c'était... Peut-être que maintenant, ça marcherait. Hein. Les sons, ils ne sont pas mauvais.
Ah bah, c'est dans l'air, ça marche très fort. Bah, tous les sons sont français.
Ça pourrait être le générique. Ça pourrait être leur générique. Mince.
Je crois que ça colle bien, ouais. Côté un peu géopolitique, tout ça. Ouais, c'est pas mal. L'extrait suivant.
Ça, moi, je connais ça.
Miracle de l'amour.
Bien sûr.
Bah oui,
c'est
Miracle de l'amour. Vous avez joué aux côtés d'Hélène Rollès à une époque, Véronique Allouret.
Ah ouais, j'ai joué longtemps dans le Miracle et dans Hélène. J'étais la cousine de Bénédicte, ouais. Laurence, et ça passe encore. Et je n'ai jamais touché de royalty.
Ah, pas possible.
Non, ça fait 30 ans que ça passe à la télé, que parfois les gens m'envoient. Oh, vous êtes là à minuit à 14h du matin. J'ai jamais rien touché.
Oh, il est fort, Jean-Luc Azoulay.
Ouais,
c'est
vous savez que j'y pense souvent. Je me dis, mais le mec, il est trop fort.
Ah, bah ouais. Il a pris tous les droits pour lui.
Ouais.
Surtout que ça continue aujourd'hui.
C'est ça.
Ah bah tenez, on parlait de France 5, écoutez ça.
C'est d'époque, hein, c'est
générique. Je sais pas si vous reconnaissez ce générique.
C'est vieux, hein.
C'est vieux.
Ah ouais.
C'était la cinquième.
La cinquième.
Ouais, à l'époque, en 92, vous devenez un des visages emblématiques de la cinquième, qui était dans ses premières années. Et pendant 9 mois, vous animez les écrans du savoir avec, vous aviez 3 heures de direct tous les jours?
3 heures de direct. Complètement novice. Autant vous dire, Jean-Marie Cavada et il s'appelait Monsieur Minier. Il me parlait, il me disait, mais Véronica, qu'est-ce que vous faites comme bourde? C'est pas possible. Et il me convoquait, je disais, oui, mais bon, bah, ça, je savais pas, hein, quand je recevais toutes sortes de gens en direct. C'est dur, 3 heures de direct quand on n'a jamais,
bien sûr.
Et les écrans, enfin, j'étais le premier visage. À l'antenne.
Voilà. Ah oui, carrément.
Quand ils ont allumé la cinquième, c'était mon visage qu'on avait.
Sur vous directement. Ouais. Ah bah, formidable.
Bon, c'était mignon.
Ah, voilà. et c'était quoi les bourdes?
Mais tout. Parce que je suis quelqu'un très spontané.
Oui.
Et je peux pas vous dire, Albert Jacquard, c'était un physicien. Je me suis trompée. Je lui ai dit, j'ai cru que c'était un, qui faisait les recherches. Enfin, je me suis cru que c'était quelqu'un, vous savez, en Égypte.
Un archéologue.
Donc, je lui ai posé d'autres questions qui n'étaient pas les bonnes.
Enfin, je suis pas le spécialiste.
Et j'ai même eu, je peux pas, alors ça, c'est un scoop, mais je peux pas dire, j'étais avec Thierry Rey. Et à un moment donné, je lui parle perso, quelque chose de perso, parce que je le connaissais, mais j'étais à l'antenne.
Aïe.
J'entends 5, 4, 3, 2, et là je fais « Bonjour !» Et là, j'entends de mon oreille « Mais c'est fini, Véronica, ça fait 5 minutes que tu es en direct.
» En train de parler de ta vie.
En train de parler de notre vie, des soirées qu'on s'était vues dans une soirée.
Ah oui.
Et de Chirac, puisqu'il était à l'époque, avec la fille
avec Claude Chirac. Claude Chirac.
Exactement.
Ah oui, on était très loin de la chaîne du savoir et de la connaissance.
Mais,
là.
Parfois, il y avait des petites bourdes.
En tout cas, la chaîne du savoir, vous avez.
Oui.
Des bons souvenirs, en tout cas.
Allez, un dernier petit souvenir, écoutez ça.
Adieu les limousines avec chauffeur et rebonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans la ferme où chacun doit tenir le plus longtemps possible, car c'est pour la bonne cause.
Voilà, vous avez reconnu évidemment la ferme célébrité. On est en avril 2005. Véronique Alloubry, vous participez à cette émission. À ce moment-là, j'imagine que si vous faites ça, c'est parce que vous pensiez ou vous espériez revenir à la télévision, non?
Pas du tout. Non, je fais ça parce que j'ai un vrai souci avec mon enfant. C'est-à-dire que je suis ma fille à 4 ans ou 3 ans et demi et je veux pas qu'elle aille à l'école. Je veux qu'elle soit avec moi. J'ai arrêté la télévision pour elle. Mmh. Et j'ai un vrai souci de... on est en fusion totale et tout le monde me dit, écoute, on t'a fait cette proposition. Mes amis proches me disent, essaye. Ça va un peu aussi te libérer de cette emprise que tu as avec Tilan qui est trop forte.
C'était pour vous séparer un petit peu d'elle.
Un tout petit peu d'elle. Ouais. Et j'ai demandé à sortir de la ferme. C'est moi qui ai demandé ma sortie puisque c'était trop insoutenable pour moi d'être sans ma fille. Mais ça m'a fait du bien, ce qui m'a permis de lui faire son entrée en deuxième année de maternelle après parce qu'elle n'avait pas fait la première année.
Ah oui,
à
carrément.
À cause de moi.
Ah oui, vous vouliez absolument la garder près de vous.
La garder tout le temps avec moi.
Eh ben, c'est beau. Voilà. La ferme célébrité, je crois qu'on en reparlera demain, Jean-Philippe.
On célébrera les 20 ans de la première diffusion
c'est
de la ferme célébrité. 2004.
Et voilà, pour le petit coup de pelle final.
Ça fait mal,
merci. Merci beaucoup et merci Véronique Aloubry. La vie m'a réservé bien des surprises. C'est aux éditions Le Duc. Merci d'être passé nous voir ce matin sur Europe 1.
Merci beaucoup à vous.